France Culture.
France Culture. Le souffle de la pensée. Géraldine Mosna-Savoie.
Et vous, quel est le livre qui vous a marqué? Celui qui agit encore tel une révélation. Philosophe, historien et scientifique aussi ont ce livre, cet auteur qui continue à les hanter et qui a insufflé leurs pensées. Chaque semaine, l'un d'entre eux, l'une d'entre elles vient nous en parler et aujourd'hui notre invité, linguiste et sexologue, a choisi d'évoquer un très court texte de la célèbre romancière américaine de science-fiction, même si elle n'aimait pas beaucoup ce mot, Ursula Le Guin. Un texte dans lequel elle propose une autre définition de la littérature, une autre définition de l'histoire, bref, une autre manière de faire de et des histoires. Cette manière, elle la nomme la fiction panier, mais on pourrait aussi la nommer la fiction compost.
With me, experience goes in and it goes down so deep.
Chez moi, l'expérience entre et s'enfouit si profondément. C'est un peu comme faire du compost dans le jardin. On met les épluchures de patates et tout, mais au printemps suivant, quand on prélève un peu du tas de compost, on ne fait pas la différence entre les épluchures de patates et les peaux d'orange, parce que tout a bien été transformé en bonne terre grasse. C'est la meilleure comparaison que j'ai. Je ne sais pas d'où mes trucs me viennent et les gens me demandent toujours, mais d'où viennent vos idées? Et je ne peux rien leur répondre parce qu'elles sortent de moi et évidemment, elles ont dû y entrer à un moment et je ne les reconnais pas. Je crois qu'il y a une petite différence entre les sexes ici. Je pense que les hommes ont plus tendance à savoir d'où ça vient. Dans les textes que je lis, beaucoup de romanciers hommes se vantent de raconter leurs histoires d'amour ou d'autres trucs de ce genre, à propos de gens réels. Tandis que les femmes préfèrent laisser maturer les choses et qu'elles ressortent méconnaissables. Peut-être parce qu'elles se sentent plus responsables envers les gens, leur famille, etc.
Bonjour Aurore Vincenti.
Bonjour Géraldine.
Bienvenue dans le souffle de la pensée. Vous êtes linguiste, agrégée d'anglais, chercheuse en sexologie. De vous est paru récemment aux éditions de La Découverte pour une érotique du sensible. Vous y citez Ursula Le Guin. Alors déjà, avant de dire ça, alors vous allez dire comment Ursula Le Guin, Le Guin. Allez-y.
C'est un nom qui est le nom de son époux. Son époux était un chercheur, un historien américain, mais d'origine française et même, je devrais dire, d'origine bretonne. En breton, je crois qu'on dit Le Guin, mais que les Bretons m'attaquent s'il le faut. Donc je vais dire Le Guin, je prends ce parti-là aux États-Unis.
En bon anglophone que vous
voilà,
êtes.
Aux États-Unis, en tout cas, c'est comme ça qu'on le dirait. Le Guin. Donc je prends ce parti-là.
D'accord. Et si je dis Le Guin, c'est moi qui me fais attaquer par les Bretons et peut-être par vous-même.
Non, je pense qu'en France, on adapte les noms et ça va.
J'ai même dit Le Guin à un moment donné, voilà, dans la présentation de l'émission à l'antenne. Écoutez, je vais m'en tenir à Le Guin alors. D'entendre sa voix, c'était dans une archive de 1985. Est-ce que vous pouvez nous la présenter d'abord? Qui est-elle, Ursula Le Guin, et qui est-elle pour vous? Voilà, deux questions différentes, mais une manière de la présenter quand même.
Alors, c'est une autrice de science-fiction et de fantasy, si je dois faire une présentation succincte. Elle est, chose intéressante, fille d'anthropologue, et ça occupe une place importante dans sa fiction, puisqu'elle écrit des textes qui créent des mondes, qui inventent des langages, elle pose des décors avant même de raconter des histoires. Son rapport aux gens, aux êtres, aux personnes est très important, à la psychologie même. Donc cette influence-là de l'anthropologie, elle est très, très forte dans ses textes, et elle a une œuvre foisonnante en SF et en fantasy. Elle a été connue au moment où ses textes sont sortis, elle a eu un vrai succès. Elle est souvent comparée à Tolkien, et puis elle a été un peu oubliée, et il y a un petit retour.
Alors elle est décédée en 2018, à l'âge de 88 ans, donc peut-être que ça explique aussi quand même
la
redécouverte de ses textes.
Et c'est vrai qu'elle a une œuvre merveilleuse, je ne peux qu'en recommander la lecture, et pas que pour les adultes aussi, pensons aussi à la jeunesse, notamment son cycle Terre-Mère, qui est absolument somptueux, moi que j'ai adoré lire, en tant qu'adulte, mais qui pourrait.
Vous l'avez lu là récemment?
Je l'ai lu il y a 4 ans, oui.
Oui,
oui, oui. Quand j'ai découvert.
Et vous n'avez pas 60 ans non plus, hein, mais.
Mais ni 12 ans.
J'arrive à la fin de la trentaine. Alors, je précise, parce que vous avez parlé d'œuvres foisonnantes, que Ursula Le Guin, c'est quand même 20 romans, 150 nouvelles, 4 recueils d'essais, 6 recueils de poésie. Donc, effectivement, c'est quand même vraiment multiple. Mais elle rejetait quand même ce terme de science-fiction. C'est vrai que ça pourrait être une manière réductrice de la présenter, parce qu'il y a de la science-fiction, on va en parler avec la fiction Panier, mais en fait, il y a aussi de la théorie littéraire, et c'est un texte de théorie littéraire que vous avez choisi, Aurore Vincenti.
Oui, je viens avec ce texte parce qu'en effet, il a changé ma façon de penser, ou en tout cas, il m'a donné un contenant, et vous allez comprendre pourquoi très rapidement. Ce rapport qu'elle a à la théorie me touche beaucoup, parce que ce n'est pas une philosophe, c'est une femme qui écrit des romans, et elle a une langue théorique qui est une langue très simple, très généreuse, qui cherche à émouvoir, je pense, et c'est ce pari, elle le remporte, elle le remplit, et ça c'est un des aspects de son œuvre théorique qui me touche particulièrement, et notamment le fait qu'elle a beaucoup écrit pour l'oralité, pour des discours, cette écriture de l'oral, je crois que je la connais bien, en tout cas j'ai des affinités avec cette écriture pour l'oralité. Moi c'est comme ça que je suis entrée en écriture, j'ai écrit pour dire. Donc je pense que j'ai des affinités avec elle, avec son œuvre. Je ne sais pas si je me reconnais, mais j'en fais ma maîtresse au sens de mon maître au féminin. Et la question du genre est une vraie question.
Mais après
dans
le
son
terme
oeuvre.
De maîtresse, et vous êtes linguiste et en plus chercheuse en sexologie, Aurore Vincenti, le terme de maîtresse a toute l'ambiguïté qu'il faut peut-être pour décrire ce rapport-là. Vous avez choisi, pour le citer, un texte donc très court. De 7 pages qui s'appelle La théorie de la fiction Panier, qui est paru en 1986. À ce moment-là, Ursula Le Guin, elle est déjà quand même très connue. Vous avez parlé du cycle Terre-Mère, mais on pourrait parler aussi du cycle de l'Écumène. C'est vraiment des cycles énormes où elle imagine plein de monde. C'est quoi ce texte, La théorie de la fiction Panier? Vous, comment vous le découvrez?
Alors, je l'ai découvert dans un emboîtement ou un enchevêtrement, mais emboîtement serait plus pertinent comme terme, dans un emboîtement de voix.
Ça fait vraiment une émission sur le choix des mots, la prononciation. Voilà.
Écoutez, on se refait pas.
Bah oui, voilà.
Un emboîtement de voix, puisque je l'ai découvert j'ai découvert Ursula Le Guin à travers la voix de Vinciane Després. Donc, j'ai lu un.
Donc, philosophe belge du vivant.
Du vivant, anciennement psychologue, enfin, une penseuse que j'adore, dont j'aurais pu parler aujourd'hui aussi. Et lisant un entretien dans lequel elle parlait d'Ursula Le Guin et de cette théorie de la fiction Panier, j'ai donc découvert la voix au. Je vais filer la métaphore linguistique au discours indirect libre d'Ursula Le Guin par la voix de Vinciane Després. Et ce qui est drôle, c'est que Ursula Le Guin, dans ce texte de non-fiction, elle parle elle-même, et elle part elle-même d'un texte d'Elisabeth Fischer, qui est une autre femme sur laquelle elle écrit. Donc, en fait, je vois vraiment cette filiation, cette transmission dans ce texte, et je comprends vraiment que dans le rapport à mon travail d'écriture, qu'il y a cette filiation qui est très importante, que j'ai envie d'honorer et de célébrer.
Mais donc, vous n'avez pas forcément conscience. Il a fallu que vous lisiez Vinciane Després pour vous dire « je veux m'inscrire dans une filiation de femme qui écrivent sur les sciences d'une autre manière. »
Oui, ça s'est fait tout seul. Je pense pas que j'en ai fait. Sur le moment, j'en avais pas conscience. Ce qui est vrai, c'est que j'ai quand même lu beaucoup d'hommes plus jeunes. Pendant mes études, je n'ai lu que des hommes.
Comment éviter de les lire ?
Et il y a eu une période dans ma vie où j'ai découvert que des femmes écrivaient, des femmes pensaient. Ça paraît bête que je dis comme ça, mais à partir de ce moment-là, j'ai vraiment eu envie d'investir ce territoire-là, de découvrir toutes ces voix-là qui ne sont pas. Ce n'est pas la même écriture, elle en parle là, dans l'extrait qu'on entendait au tout début, de cette différence genrée qui peut-être s'estompe avec le temps aussi, avec les transformations sociétales et culturelles actuelles, je suis prête à le croire, mais elle parle vraiment dans un de ses courts textes, dans le recueil que j'ai apporté aujourd'hui, qui est « Danser au bord du monde », elle décrit cette...
Donc où il y a ce texte, de la théorie de la fiction Panier.
Voilà, et dans d'autres textes, car il y a plein de textes dans ce recueil, elle décrit cette écriture au féminin, ou en tout cas ce qu'elle appelle le féminin, comme étant inscrite en effet dans le compost, dans la cuisine, quelque chose qui a les pieds dans le réel et pas dans une tour d'ivoire. Alors elle s'oppose, ou en tout cas elle discute avec Virginia Woolf, elle dit Moi, la chambre à soi, j'y crois pas. Je sais que mon écriture, elle vient de la cuisine.
Oui, ça, c'est intéressant parce que c'est un texte qui est énormément relu. Une chambre à soi de Virginia Woolf. Il y a plein de nouvelles traductions. Une pièce à soi. Je pourrais citer d'autres titres, mais vraiment, en fait, il y a des relectures et vraiment une force qui est trouvée dans ce texte-là. Et il y a aussi peut-être une autre lecture, effectivement, quelques objections à lui faire. Peut-être que Ursula Le Guin lui fait justement en lui disant. En fait, on écrit peut-être mieux quand on est dans la cuisine, quand il y a du bruit, ou peut-être qu'on n'écrit peut-être pas mieux, mais peut-être qu'en fait, on ne peut pas faire autrement.
En tout cas, en effet, on ne peut pas faire autrement. Elle a fait avec, et elle en tire quelque chose de très beau, qui est, j'ai les pieds dans la terre, je suis inscrite dans cette matière, j'ai un corps, j'ai des mômes qui me courent autour, je fais plein d'autres choses, et quand j'ai quelques secondes, j'écris sur un coin de table, et mon écriture, elle est très, très imprégnée de ce coin de table, en fait. Je n'ai pas eu à m'isoler, et alors, certainement aussi parce que c'est une femme qui avait des privilèges, enfin, voilà, c'était aussi... Il faut mettre ça en perspective, oui.
Elle a fait des études, c'est une écrivaine, elle est reconnue, oui. Elle est philanthropologue.
Oui. Donc, il y a tous ces enjeux-là. Mais c'est intéressant de voir ce dialogue très affectueux hein, qu'elle engage avec Virginia Woolf, puisqu'elle aime beaucoup Virginia Woolf.
Elle la cite d'ailleurs aussi dans la théorie de la fiction panier.
Oui, c'est pour ça que c'est jamais... Elle offre une autre perspective que je trouve aussi intéressante. Qu'est-ce que c'est que d'écrire en tant que femme depuis cette matérialité, cette incarnation? Ça, c'est vrai. Depuis ce corps-là. J'ai ce corps. Et ce corps, il est dans la cuisine. Et il est affairé à plein de choses. Et comment j'écris depuis cet endroit-là? Et ce qui est fou, c'est qu'elle a créé des mondes imaginaires absolument somptueux, incroyables. Donc, en effet, elle est quand même sortie de la cuisine d'une façon ou d'une autre.
En tout cas, sa cuisine a des allures assez dingues, mais c'est intéressant parce que ça veut dire que Ursula Le Guin, on peut la lire, on peut aller vers elle sans avoir aimé la science-fiction. C'est-à-dire que on peut passer par ses ouvrages de poésie, ses ouvrages de théorie littéraire, mais aussi, en fait, ses romans, et moi, je le dis, parce que je ne suis pas une lectrice, de SF. J'ai lu La main gauche de la nuit, dont on va entendre un texte tout à l'heure, qui est un de ses très grands romans parus en 1969 du cycle de l'écumène. C'est génial! Vraiment, alors que moi, vraiment, la science-fiction, j'ai une résistance et c'est de la bêtise sûrement de ma part, mais je n'y arrive pas. C'est vraiment incroyable. Donc, on n'est pas obligé d'aimer la science-fiction pour aimer Ursula Le Guin et aimer ce qu'elle dit.
Et on va peut-être comprendre ce qui, dans la science-fiction, ou dans certains types de science-fiction, parce que c'est quand même un champ très très large, très foisonnant, la littérature de l'imaginaire, c'est merveilleux ce qui s'y crée, ce qui s'y produit aujourd'hui, autant d'utopique, de dystopie, d'uchronie, enfin, vraiment c'est un endroit où l'imagination humaine est à l'œuvre de façon absolument splendide, il y a des œuvres et des créations superbes. Alors, si je reviens à Ursula Le Guin, puisqu'on parle d'elle, elle explique vraiment dans le texte que j'ai apporté aujourd'hui, qui est La théorie de la fiction panier, ou en tout cas c'est un des titres, une des traductions du titre.
Oui, on a aussi le fourre-tout de la fiction, une hypothèse, voilà, que vous n'aimez pas.
Que je n'aime pas trop, parce que fourre-tout en français est assez péjoratif.
Ça fait tout et n'importe quoi.
Ça fait un peu tout et n'importe quoi.
Mais en même temps, compost.
Oui, c'est pour ça.
En anglais, c'est quoi? Voilà, vous qui avez fait...
Carrier bag, c'est un sac de transport, un sac à provisions, c'est un sac qui contient des trucs.
Un sac, quoi.
C'est un sac.
Ouais, ah, ouais. Même panier, c'est peut-être trop joli.
Donc, le sac à provisions serait peut-être... mais bon, c'est pas très joli d'écrire un...
En Charente-Maritime, on dit une poche.
Une poche,
c'est bien, c'est un peu informe.
Mais ce foisonnement de traduction est plutôt... moi, je l'aime bien, ça me plaît qu'il y ait plusieurs versions. Donc, très bien. Là, j'ai choisi le panier parce que c'est assez évocateur. Oui. Et donc, on
voit le contenant.
On voit le contenant, on voit la forme. Et c'est un texte sur le contenant. Et donc, justement, dans ce texte, elle parle de science-fiction et elle parle de la structure narrative traditionnelle du récit, notamment du récit de science-fiction, qui est fondée sur le conflit, une trame martiale avec des gens qui se tuent, des guerres, des combats, et que c'est ça qui fait tenir le récit, c'est-à-dire le héros qui va en buter quelqu'un d'autre. Et ça, elle dit, j'en peux plus, c'est pas la fiction que je veux, ça ne m'intéresse pas, et puis en plus ça génère une vision du monde, et ça c'est intéressant aussi, sa réflexion qu'elle tisse entre fiction et réalité, et politique hein, presque. Ce texte, il est discrètement, joliment politique.
C'est vrai.
Oui.
Non, mais c'est vrai, il est en fait même très ironique, on va l'entendre tout à l'heure, mais c'est vraiment... Il y a de l'ironie, il y a une charge féministe, mais qui n'est pas en fait surlignée du tout. C'est plutôt une fable, en fait. Elle raconte, imaginez, aux origines de l'humanité. Qu'est-ce qu'on se dit après une journée passée en dehors voilà, du lieu de vie? Qu'est-ce qui prend la parole? Est-ce que c'est ceux ou celles qui ont tué un mammouth, ou est-ce que c'est ceux ou celles qui ont fait la cueillette et mis dans un sac? C'est ça, en fait. Donc, c'est assez poétique.
C'est très poétique. En effet, elle dit c'est pas facile d'écrire sur une cueillette. C'est beaucoup plus glamour de parler de conflits, de combats, d'une lance qui transperce le flanc d'un mammouth. Et ça, en effet, c'est là qu'on entend son humour, et je pense qu'on va l'entendre dans un des extraits qui sera lu. C'est aussi cette... Alors, elle est féministe, hein, et pour le coup, elle le dit, donc...
Et puis, on l'a entendu dans l'archive, voilà, au début, c'est assez net. Dès le départ, elle annonce, il y a une comparaison entre les hommes et les femmes. Les hommes et les femmes n'écrivent pas de la même manière. On pourrait contester, discuter cette distinction-là, d'ailleurs, parce que...
C'est une époque, hein. Elle parlait dans les années 80, ce texte, elle l'a écrit dans les années 80, La main gauche de la nuit, c'est les années 69, voilà. Donc, voilà, c'est aussi une époque du féminisme, et c'est très beau de la voir évoluer, parce que dans ses textes théoriques, elle date et elle corrige, elle se corrige de décennie en disant « je pensais ça à une époque, maintenant plus du tout ».
Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple de correction qu'elle fait, notamment dans ce recueil « Danser au bord du monde » où on trouve donc la théorie de la fiction panier, mais aussi des textes où en fait elle revient elle-même sur ce qu'elle a écrit et où en fait elle se corrige elle-même?
Alors donc, elle écrit un texte critique, autocritique, sur La main gauche de la nuit. Donc, La main gauche de la nuit paraît en 69 et elle publie ce texte critique.
Énorme succès.
Oui, voilà. Et encore aujourd'hui, dans le champ des études féministes ou queer, c'est un texte qui est encore lu, cité, admiré.
On l'entendra parce qu'il y a toute une théorie de la sexualité, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'homme ni de femme, il n'y a pas de choix, on ne décide pas d'être homme ou femme, on n'est pas homme ou femme. C'est vraiment notre corps qui décide presque malgré nous, en fonction de notre moment de sexualité.
Et ça, elle fait une tentative. Elle essaie quelque chose. C'est expérimental, ce texte. Hein. Elle tente un truc en 69 sur la sexualité. Et elle dit 10 ans plus tard, puis ensuite 20 ans plus tard, et peut-être encore 30 ans après, je me suis plantée. J'ai voulu tenter quelque chose. C'était pas une utopie, je préconisais rien. Ça, c'est intéressant de voir comment, en fait, la science-fiction ou la fantasy, ce n'est pas un modèle à suivre. C'est une exploration.
Une hypothèse.
Une hypothèse. Et donc, elle fait une hypothèse. Elle essaie de voir ce que ça donne si on abolit le genre et on abolit même le sexe, puisque ces personnages ne sont pas sexués. Ils deviennent sexués et sexuels à un moment du mois où, tout à coup, leur sexualité émerge. Au moment du kéma. Elle voit cette période de la vie comme... cette période du mois pour chaque individu comme une période... particulière, qui n'est pas humaine, enfin en tout cas qui ne ressemble pas à nos civilisations humaines, et elle fait un test avec nous, lecteurs, lectrices. Qu'est-ce que ça donne si on pense la sexualité de cette façon-là? Et elle se rend compte donc plusieurs années après que ça ne fonctionne pas, notamment parce que elle a inventé une sexualité ultra-hétéro. Donc vraiment, elle ne voit pas d'autre alternative que l'hétérosexualité. Quand les personnages deviennent sexuels et sexués, ça couple avec un personnage qui devient du genre et du sexe masculin ou du genre et du sexe féminin. Enfin, en tout cas, il y a une rencontre de ces deux sexes-là, quoi qu'il arrive, ou quasiment tout le temps. Donc elle n'explore pas trop d'autres modèles de sexualité. Et puis surtout, dans la langue, elle crée un peuple non-genré avec une langue anglaise qu'il est.
Oui, mais avec une langue anglaise qui pourrait lui permettre justement d'être non-genré.
Sauf que le roi reste le roi.
C'est the
king. Ce n'est pas la reine, le king. Donc elle dit très joliment, j'ai adoré écrire la phrase « le roi est enceint ». Et pas « le roi, la reine est enceinte ». Donc le roi est enceint, d'accord, mais au bout du compte, et c'est vrai qu'à la lecture, on me dirait ce que vous en avez pensé, on voit une armée d'hommes. Enfin, il n'y a que des mecs dans ce livre.
C'est vrai qu'il n'y a que des mecs.
Mais oui, c'est que des mecs, alors qu'elle voulait créer un peuple qui n'était pas genré.
C'est-à-dire que même le personnage d'Estraven, qui est un des héros de ce livre, effectivement, on l'imagine comme un homme, il est décrit comme un homme, même si l'autre héros du roman, Jenny Haye, dit à certains moments, et c'est là où on comprend qu'on est dans un autre monde, dit, je ne savais pas s'il était dans sa période période féminine ou masculine. Mmh. Et d'ailleurs, on retrouve des traits très essentialisants. Il dit parce qu'il était tout à coup très doux. Il avait des petits gestes élégants. Et donc, c'est vrai que là, pour le coup, elle reproduit, mais on est en 69.
Voilà des elle reproduit un schéma très binaire.
Qu'on appelle des stéréotypes de genre. Voilà. Voilà. Et le texte où elle s'autocritique, il date de quand, Aurore Vincenti ?
Alors, 76, c'est la première version.
Ah non, que 7 ans après, elle a déjà
mûri. Et ouais. Ensuite, ce qui est très drôle, c'est qu'elle reprend ce texte de 76 en 87 et elle ajoute des parenthèses et des italiques où elle se corrige elle-même en disant je disais ça, mais je ne suis plus d'accord avec ça. À l'époque, j'étais absolument contre les pronoms non-binaires. Maintenant, je suis absolument pour. À l'époque, je pensais que ça, c'était pas important. En fait, c'est hyper essentiel. Mm-hmm. Et donc, ça, c'est très drôle à lire. Et je pense, est-ce que ça vous va que je lise un tout petit...
Allez-y.
Donc, dans l'introduction à ce texte, elle dit « Rien de plus féministe que de révéler ses revirements, l'essence du changement, ou de rappeler qu'un esprit qui ne change pas d'avis est comme un coquillage qui ne veut pas s'ouvrir. Je reproduis donc ici le texte dans son intégralité, mais avec des commentaires en italique et entre crochets. À compter de ce jour, je prie et j'implore toute personne désireuse de citer cet essai de tenir compte de ces réexamens ou au moins de les mentionner. Et j'espère sincèrement ne pas avoir à ajouter de réexamens en cas de réimpression en 1997, car je suis un peu lasse de me flageller. » Ce mouvement de la pensée, cette pensée en train de se faire ou qui s'est faite sur des décennies et sur laquelle elle revient, en fait, je trouve ça très beau. Alors, elle dit que c'est féministe de faire ça. Je trouve que c'est plutôt rare, je ne vois pas ça si souvent.
Et oui, même chez des femmes d'ailleurs, pas
oui,
forcément
chez tout le monde,
en fait.
Tout à fait. Et j'aspire à être cette personne-là, voilà.
Mais est-ce qu'elle est revenue sur sa théorie de la fiction panier ? Parce que ce texte, il date de 86. Est-ce qu'elle revient dessus ? Est-ce qu'elle le soutient tout de suite ? Est-ce que ça, c'est vraiment quelque chose qui est peut-être définitif, qui peut quand même... apparaître comme une philosophie, pour le présenter aux auditeurs et aux auditrices, de sa littérature, mais aussi qu'on pourrait étendre à toute forme de littérature, à toute nouvelle tentative d'écriture, Aurore Vincenti.
Je ne sais pas si elle est revenue dessus, je ne suis pas sûre, et ce texte se tient plutôt bien aujourd'hui.
C'est vrai.
Oui, je trouve qu'il a bien vieilli, il y a des choses qui n'ont pas si bien vieilli que ça, mais c'est un texte très...
Vous pourrez nous dire lesquels ? Moi, je n'en ai pas trop repéré au cours des 7 pages, je dois dire.
Disons que elle reste dans un schéma assez binaire sur certains points, mais c'est vraiment marginal. Mais disons que je trouve qu'en fait, ce rapport entre le panier, peut-être est-ce qu'on peut entrer dans le vif de ce...
Vous voulez qu'on écoute le premier texte ?
Oui, ce serait chouette.
Bah allez, merci.
Le premier artefact culturel fut sans doute un récipient. C'est ce que dit Elisabeth Fischer. Mais non, ça ne se peut pas. Car dans ce cas, qu'advient-il du merveilleux objet si gros, si long, si dur, un os, je pense, que l'homme singe abat sur le crâne d'un autre dans ce film célèbre, avant de pousser un grognement d'extase à l'idée d'avoir perpétré le tout premier meurtre digne de ce nom, puis de le lancer vers le ciel, où tourbillonnant, il devient un vaisseau spatial, se forçant un chemin dans le cosmos à féconder, pour donner, à la fin du film, un ravissant fœtus, mâle évidemment, qui dérive dans la Voie lactée, sans, bizarrement, utérus ni matrice. Je l'ignore. Et d'ailleurs, je m'en moque. Ce n'est pas cette histoire-là que je raconte. Celle-là, on la connaît. Tous, nous savons tous. Tout ce qu'il y a à savoir sur tous les gourdins, javelots et cimeterres, tout ce qui assomme, transperce et frappe, toutes ces choses longues et dures. En revanche, nous ne savons rien des choses qui servent à en contenir d'autres. Le contenant de la chose contenue. Ça, c'est une histoire nouvelle. C'est de l'inédit. Malheureusement, nous nous sommes si bien laissés absorber dans l'histoire qui tue que nous risquons de nous achever avec elle. C'est donc avec un certain sentiment d'urgence que je cherche à percer la nature, le thème, les termes de l'autre histoire, celle qui n'a pas été encore racontée, l'histoire de la vie.
« Extrait de La théorie de la fiction panier de Ursula Le Guin, texte de 1986, lu par Anaïs Sisberg, qui a parfaitement mis l'ironie dans sa voix et qu'on entend dans ce texte où elle dit très bien « Mais que pourrait-il advenir de ce merveilleux objet si long, si dur, cet os qu'on abat sur un autre ?» Ici, Ursula Le Guin oppose la fiction panier, dont elle parlera un tout petit peu plus tard dans son texte, à ce qu'elle appelle la fiction épée, la fiction pointe, la fiction lance. Alors, avant de parler de la fiction panier, Aurore Vincenti, c'est quoi la fiction pointe lance, et est-ce qu'on peut réduire à ce point-là la littérature à ce deux types de textes? Soit on parle de conflit, soit en fait on n'en parle pas et c'est une fiction panier.
Probablement pas. On ne peut pas réduire la fiction à ça. Néanmoins, il y a quand même de grandes catégories. Et ce qui est vrai, c'est que pour raconter une bonne histoire, une histoire avec du suspense, avec de l'aventure, on va plutôt pencher vers le conflit, vers la guerre, vers le héros ou l'héroïne, mais enfin plus souvent le héros, qui va conquérir, abattre, tuer, violer. Quand même ce schéma dans l'histoire. Et c'est vrai que dans la science-fiction, ça a été très présent à certaines époques, même si ça a beaucoup évolué. Donc, ce schéma, il existe, oui.
La mythologie en témoigne.
La mythologie en témoigne. Enfin, voilà, on remonte. C'est pas du tout marginal. En revanche, je pense qu'on ne peut pas réduire la fiction à ça. Elle le dit à un moment. Elle dit ça, cette histoire, cet inédit, cette histoire de la vie, qui n'est pas une histoire du conflit, elle existe déjà. Elle a déjà été racontée. Et elle dit que, d'ailleurs, le roman, c'est peut-être l'endroit idéal. C'est le roman est un panier. Le roman est un.
Vous anticipez sur le deuxième texte,
oui,
Vincenti. Non, mais effectivement, il y a d'autres types de récits, il faut quand même le dire. C'est-à-dire que là, Ursula Le Guin, c'est un texte court, un peu manifeste. Elle procède quand même à une opposition, on va dire, assez réductrice entre d'un côté la fiction panier et de l'autre la fiction lance, la fiction arme, la fiction pointe. Mais en tout cas, elle révèle bien quand même à l'œuvre ce goût qu'on a pour les récits de guerre, et je reprends en fait ce qu'elle dit et que j'ai dit tout à l'heure au Romain Senti, à la fin d'une journée, qu'est-ce qu'on raconte? Comment on a tué un mammouth? Ou, je ne sais pas, adaptons à notre époque aujourd'hui, au Romain Senti, comment on raconte, comment on a réussi à faire passer une idée, comment on s'est engueulé avec quelqu'un à vélo et comment on a eu raison. C'est ça quand même qui domine en fait dans ce qu'on va dire peut-être de notre récit, c'est ça qui nous captive. Pourquoi c'est ça qui nous plaît en fait?
Ça m'a beaucoup intéressé ça, et en le relisant à la faveur de cette émission, j'ai été à nouveau touchée par ça et je me suis dit mais je suis encore prise dans ce schéma-là, alors que je cherche à le déconstruire, que dans ma réflexion sur la sexualité, on y viendra, j'ai vraiment appliqué cette recette panier. Je l'ai travaillée, je l'ai étudiée, et je pense maintenant je l'incarne bien. En revanche, dans ma vie quotidienne, je crois que je suis complètement prise par le mythe du héros. Je crois que je suis encore enserrée par l'idée qu'il faudrait que je sois héroïque, que j'ai des décisions à prendre, qu'il y a des choses importantes à faire, qu'il faut que je mette de l'intentionnalité dans ma vie, que chaque chose que je vais faire, elle doit avoir du sens. En vérité, la vie, c'est une succession de moments doux, mou. Vous qui connaissez le mou.
J'aime bien le mou.
Voilà, vous aimez bien le mou. Vous voyez bien que ce n'est pas, enfin, le degré d'intentionnalité dans nos petites décisions de chaque instant, de chaque jour, est moindre. Enfin, il est très réduit. Et donc, s'autoriser à habiter ce panier, cette mollesse, je suis dans ma vie et je n'ai qu'à la vivre. La vie n'attend rien de moi. N'attend pas de moi que je sois héroïque et que je performe, que je fournisse, que je me batte. Et pourtant, je le vois à ma petite échelle, je suis encore très imprégnée de cette mythologie-là. Et j'ai beau lire Ursula Le Guin, j'ai beau écrire sur ces questions-là, on n'est pas sorti de l'auberge. Enfin.
Et j'ai une question très difficile à vous poser, que vous abordez d'ailleurs dans votre livre Pour une érotique du sensible, Aurore Vincenti. C'est la question, par exemple, du désir, qui est formaté par des types de récits qui peuvent être violents, des types de récits fondés sur la domination. Et Ursula Le Guin, en fait, pointe cette dimension-là aussi dans notre goût de tel ou tel récit fondé sur la violence, le conflit, la guerre, le triomphe, l'héroïsme. Est-ce qu'on a quelque chose en nous qui préfère ça, ou est-ce qu'on nous a imposer ça d'une certaine manière, parce qu'elle le dit très bien, elle dit finalement ce type de récit s'est imposé. Et pourquoi il s'est imposé? Est-ce qu'en fait c'est pas aussi en fait la structure du désir qui est celle-ci, c'est-à-dire que il y a quelque chose de l'ordre du conflit, du triomphe, de l'adversité, ou est-ce que c'est vraiment en fait une incorporation, c'est devenu une seconde nature, mais par habitude en fait, par habitude de ce type de récit?
C'est très difficile de dire ce que nous sommes, de quoi nous sommes faits, s'il y a encore de la nature en nous, ou si chaque petit bout de nature en nous n'est pas teinté par de la culture. Enfin, Donna Haraway dirait que nous sommes nature-culture, en un mot, presque. Et ça, c'est... Je ne saurais pas. Et je crois que si on savait dire à l'origine...
On est comme ça, vierge de tout.
Non, bah, je m'aventurerais pas sur ce terrain-là. Et c'est pour ça que le désir est éminemment culturel. C'est une pratique. Nos sexualités sont très culturelles. Ce sont des faits de société, de culture aujourd'hui. Là où on en est aujourd'hui, si on parle d'aujourd'hui, je ne sais pas comment c'était il y a des milliers d'années, mais en tout cas aujourd'hui, nous produisons du sexe culturellement. C'est un objet culturel. Il n'y a plus grand-chose de naturel là-dedans. Enfin, et d'ailleurs, si nous suivions les chemins de la nature, nous ne ferions du sexe que pour procréer. Donc ça, je ne sais pas si c'est là la question. En revanche, ce que je lis en filigrane dans ce texte, qui ne parle pas de sexualité, hein, c'est un de mes traits, j'aime bien réfléchir à la sexualité depuis des endroits non sexuels.
On n'en parle pas.
Voilà, c'est vraiment ça qui m'intéresse dans la recherche. Je vois, c'est ce qui m'aide à réfléchir, en fait. Je suis soutenue par tout ce qu'il y a autour. Et sur la sexualité, enfin en tout cas sur la question de la pointe, alors on pourrait avoir une lecture très, très littérale de le récit en pointe et de l'autre côté le contenant, donc quelque chose qui ressemblerait à un pénis et l'autre à un vagin, dans une vision très hétéronormée, avec une injonction à la pénétration. Bon, très bien, ça c'est une première lecture et elle est intéressante parce que la question de la pénétration est encore très présente dans nos schémas hétéronormés, mais il n'y a pas que ça, il y a qu'est-ce que nous mettons, quel degré d'intentionnalité nous mettons dans nos sexualités et à quel point nous faisons dominer l'intention, la volonté, un désir en effet qui domine l'autre, qui est là pour posséder l'autre, et pas l'attention plutôt que l'intention, c'est-à-dire quelque chose qui serait de l'ordre davantage d'une écoute, d'une réceptivité et d'une disponibilité. Et je dis pas que, tout comme je pense qu'Ursula Le Guin ne dit pas que dans la fiction il faudrait abolir toute trace d'héroïsme. Oui, il y a des héros, il y en a aussi, ça fait partie aussi du schéma fictif. Mais dans la sexualité, je dis pas qu'il faut abolir toute intentionnalité, abolir tout désir fougueux et vigoureux. Non, mais laisser de la place et en tout cas le laisser être soutenu par une disponibilité et par une écoute.
En tout cas, c'est ce qu'elle dit. Elle dit, Ursula Le Guin, qu'elle, en tout cas, effectivement, elle ne dit pas qu'il faut l'abolir ni rien, ce type d'histoire, mais elle dit que ce n'est pas l'histoire qu'elle veut raconter. On l'a entendu. Elle, ce qui l'intéresse, et elle cite d'ailleurs donc Elizabeth Fisher, qui est une géologue américaine, une des premières géologues américaines, qui dit « Le premier artefact culturel fut sans doute un récipient. » Et quand on lit Ursula Le Guin et ce texte-là, on se dit « Mais évidemment que c'est un récipient. » Alors, qu'est-ce que c'est le récipient? Qu'est-ce que ça représente? Il y a la première lecture un petit peu littéral, Aurore Vincent, vous en avez parlé, il y a d'un côté la pointe, de l'autre le contenant. Bon, voilà, on peut avoir une lecture très littérale de ça, mais qu'est-ce que ça représente de plus, le récipient, qu'un simple contenant, si je puis dire?
C'est une bonne question. Je peux dire ce que j'en comprends dans mon écriture et dans mon expérience de lectrice aussi. Je sais reconnaître un texte panier. Voilà, quand je lis un texte panier, je le vois, je le sens, je me sens dedans, je me sens accueillie dans ce texte. Cela ne veut pas dire que le texte n'est pas difficile, ardu, ne me met pas en difficulté aussi parce que je ne suis pas obligée de penser avec ce texte, ou en tout cas, je peux être amenée à penser contre ce texte. Il peut me faire réfléchir en m'amenant dans des endroits que je ne connaissais pas avant, qui ne me sont pas coutumiers, habituels. Donc, oui, il y a quand même cette idée d'un texte qui tend la main, qui ouvre un espace pour que je m'y installe en tant que lectrice. En tant qu'autrice, et ça je pense que c'est... Donc je l'ai découverte et j'ai découvert ce texte quand j'ai commencé à écrire cet essai pour une érotique du sensible. Et il y a eu... Ce qui a été très fort, ça a été de me dire ce n'est pas le contenu de ce texte tant qu'il m'intéresse, c'est de faire texte panier. Je voudrais réussir à faire un texte qui contient, qui accueille. Donc pas forcément un texte dont le sujet est la sexualité, mais dont le contenant, voilà, le contenant.
Et vous faites des gestes, on ne les voit pas à la radio,
mes bras. Contenant. Voilà, je voulais pouvoir accueillir, parce que la sexualité, on peut y aller, on peut proposer des théories sur la sexualité, on peut proposer des idées, et des idées aussi incisives. Ceci oui, cela non, il faut...
faire des théories pointes.
Voilà, on peut faire des théories en pointe, et je ne voulais surtout pas ça. Je suis consciente, aussi parce que j'accompagne des personnes qui se réparent suite à des violences sexuelles. Je suis consciente que nous avons des sexualités tellement diverses, des histoires tellement complexes, que cette complexité-là, il fallait qu'elle transparaisse dans ce tissage, peut-être le tissage du panier, je ne sais pas, mais que je ne voulais pas donner de grandes leçons de vie sur ce que le sexe doit être. Et pour cela, je voulais pouvoir être accueillante. Et je pense que c'est ça qui est important pour moi dans ce texte de Le Guin, c'est de comprendre ce que c'est que d'écrire un texte panier.
Et en fait, on pourrait même élargir, Aurore Vincenti, on pourrait dire c'est quoi une vie panier et pas une vie en pointe, c'est quoi une théorie panier et pas une théorie en pointe, etc. Une cuisine panier et pas une cuisine en pointe.
Pour faire de la déco panier.
Exactement.
C'est pour cela que j'aime les romans. En lieu et place des héros, ils contiennent des gens. Aussi, quand j'ai commencé à écrire des romans de science-fiction, ai-je apporté avec moi une grosse besace pesante emplie de ceci et de cela, de mauviettes et de maladroits, de minuscules grains, encore plus petits que des graines de moutarde, et des filets au maillage serré qui, une fois laborieusement dénoués, s'avèrent contenir un unique galet bleu, un chronomètre dont l'aiguille imperturbable donne l'heure d'un autre monde, et puis aussi un crâne de souris. Un fourre-tout plein de commencements sans fin, d'amorces, de pertes, de transformations et de traductions, avec bien plus de tours de passe-passe que de conflits, moins de triomphes que de pièges et de leurres, plein de vaisseaux spatiaux en panne, de missions qui échouent et de gens qui ne comprennent rien. Je l'ai dit. Il est difficile de maintenir un auditoire en haleine quand tout ce qu'on a à raconter, c'est un corps à corps avec la folle avoine pour en détacher le grain de la chaume. Mais je n'ai pas dit que c'était impossible. Qui a dit qu'il était facile d'écrire un roman ?
France Culture, le souffle de la pensée. Géraldine Mosna-Savoie.
Théorie de la fiction panier de Ursula Le Guin. Nous en parlons avec vous ce matin, Aurore Vincenti. Vous avez ri même sur la fin de ce texte que vous avez choisi. Donc c'est ce moment où en fait Ursula Le Guin dit mais bah oui, c'est pas facile d'écrire une fiction panier. Et c'est vrai que ça suppose quand même de déconstruire, de détruire un certain nombre de choses, d'habitudes, de réflexes qu'on a dans ce qu'on aime. Elle le dit, comment tenir un auditoire en haleine? Comment captiver un auditoire quand en fait on est habitué à d'autres types de récits? Alors là, il y a la question du sujet. Il faut peut-être parler d'autre chose, mais il y a surtout la question de la méthode, c'est-à-dire de comment on en parle. On peut bien parler de vaisseau spatial qui conquiert des territoires, mais tout dépend de la manière dont on en parle.
Oui, c'est ça, c'est une manière. C'est pour ça que ce n'est pas du contenu, c'est du contenant. Et je la trouve très drôle. En effet, j'ai ri à la fin de l'extrait parce qu'elle a cette petite pique, cette petite pointe, elle. Mais très délicate, sous couvert d'humour, de dire « qui a dit que c'était facile ? Ce que je fais est vraiment difficile. » Et en effet, c'est une grande autrice. C'est quelqu'un qui écrit vraiment très bien, qui sait écrire un texte de fiction, qui sait écrire une histoire. Et ce n'est pas facile. Alors on pourrait céder, et ce que j'entends derrière, c'est qu'on pourrait céder à la facilité et écrire un texte sur le conflit. C'est facile, ça plaît à tout le monde, c'est une lecture et une écriture plus simple. Alors bon, je me mets pas à la place des auteurs et des autrices de fiction, donc je veux pas donner l'impression que je critique, mais j'aime bien cette idée que en effet elle dit de manière détournée et presque drôle, je suis quelqu'un qui fait bien son travail.
Oui, c'est vrai qu'elle dit ça, je l'avais pas forcément perçu, mais je me pose quand même une question sur est-ce qu'on peut vraiment écrire une bonne histoire sans conflit. C'est-à-dire, je ne dis pas forcément avec quelqu'un qui gagne à la fin, mais sans épreuve. Qu'est-ce qui se passe dans une histoire s'il n'y a pas une personnes ou des personnes qui rencontrent d'autres personnes, des environnements et qui se produit quelque chose. D'ailleurs, pour avoir lu la main gauche de la nuit, donc ce grand roman d'Ursula Le Guin, c'est quand même ce qui se passe. Il y a un héros qui s'appelle Jenya qui est envoyé pour persuader deux nations de rejoindre une confédération, l'écumène de planètes. Donc, enfin, il traverse des épreuves. C'est un héros, il traverse des épreuves, il essaye de convaincre des gens. Donc, est-ce que c'est vraiment le conflit, le problème? Est-ce que ce n'est pas plus subtil que ça, Aurore Vincenti?
Alors, d'une part, oui, c'est un héros, enfin plutôt un anti-héros, hein, quand même. Et ce qu'elle met en valeur dans ce texte, La main gauche de la nuit, c'est surtout ce peuple qu'elle crée, qu'elle invente avec des us, des coutumes, des façons de faire. Et pour le coup, elle n'abolit pas du tout le conflit dans ce texte. Ce qu'elle abolit, c'est la guerre. Elle le dit, je voulais faire un texte, je voulais inventer un peuple qui ne connaît pas la guerre, qui ne fait pas la guerre. Et d'ailleurs, c'est même, il y a le spectre de l'arrivée potentielle de la guerre au sein de ce peuple par l'intermédiaire de cet émissaire qui arrive au sein de cette civilisation. Et donc, il n'y a pas de guerre. C'est ça le
plus
le plan.
Plus que de conflit, c'est
plus
guerre.
Plus que de conflit, c'est la guerre. En revanche, donc en effet, les gens ne se tuent pas beaucoup. Un peu, mais pas tant que ça.
Ils se menacent de mort.
Ils se menacent de mort, mais tranquillement.
Quand même.
À deux.
Tranquillement.
Face à face. En revanche, il y a un conflit, même un conflit, alors un conflit un peu larvé qui s'appelle le Chief Gretor, si je me souviens bien.
Oui, qui est en fait une philosophie en fait typique de la nation caraïde, donc une sorte de monarchie un peu féodale. Ça commence comme ça en fait, le roman La main gauche de la nuit. Et effectivement, c'est une sorte de code d'honneur, on pourrait dire, sur lequel repose en fait cette nation, mais c'est presque quelque chose d'imperceptible. C'est là où d'ailleurs on retrouve la dimension anthropologique d'Ursula Le Guin, c'est-à-dire on est tout à coup dans une société où, à travers les yeux du héros, on essaye de comprendre, mais comme quand on arrive dans un pays étranger, qu'on essaye de comprendre pourquoi agir comme ça, c'est peut-être malvenu, alors que quand on est chez nous, c'est totalement accepté.
Oui, elle crée des différences de perspective et de regard, pour justement nous faire, nous, lecteurs, lectrices, regarder et interroger nos propres habitudes et nos propres coutumes. Et ce héros, bon, ce drôle de héros un peu maladroit, pas très grillé, pas grandiose quand même, si.
Bah, je l'aime bien, moi.
Oui, mais en fait, il est aimable, elle crée des personnages aimables.
C'est vrai, vous avez raison, c'est pas pareil de dire grandiose et aimable, mais quand même, je l'ai trouvé futé.
Mais et ça, elle le dit dans la théorie de la fiction panier. Elle dit la ruse, oui.
Oui, c'est vrai.
La ruse, oui.
Oui, c'est futée,
exactement
dans le texte qu'on a
entendu.
Oui, des tours de passe-passe plus que de conflits, des pièges et des leurres.
Et dans sa fiction en fantasy, par exemple pour Termère, puisque vraiment c'est un texte que j'ai beaucoup aimé, que je recommande pour les plus jeunes. Donc lisez ce texte avec vos enfants. Elle a un héros qui est super, hein. D'ailleurs elle le dit après coup, elle dit « bon, bah, j'ai mis des mecs quand même, si je me questionne un peu, je me rends compte que j'ai moi aussi été habitée par le fantasme du héros ». Et néanmoins, ce sont des héros faillibles la plupart du temps, qui ont beaucoup de défauts, qui se laissent prendre par la colère et qui se rendent compte que ça les met dans des situations très désagréables. Ils sont à la fois, ils ont une grandeur d'âme, ça c'est vrai, ces héros, mais ils se plantent beaucoup. Et je crois que c'est aussi ça, la fiction panier, c'est montrer des gens qui se plantent, qui ne prennent pas les bonnes décisions, qui, comme nous, ont des journées pas forcément concluantes et grandioses. Donc, c'est en effet plus subtil que juste une pointe et un panier, une pointe d'un côté, un panier de l'autre. Mmh. Et c'est intéressant de voir comment cette subtilité, elle transparaît, je ne sais pas comment vous l'avez ressenti ce texte, mais vraiment, il y a ce texte simple, hein, c'est quelques pages que je vous invite à lire, il est accessible en ligne aussi. C'est quelques pages dans une langue assez simple, beaucoup de délicatesse, un peu d'humour par-ci par-là, et derrière, quand même, ce que ça raconte, c'est... On a pris l'habitude de raconter des histoires qui nous engagent dans des façons de vivre destructrices, destructrices du vivant aussi. Enfin, je vois toute la dimension écologique et politique dans son œuvre qui transparaît déjà dans ce texte et qui nous invite, en fait, plutôt que de nous dire « voilà, je vais vous expliquer exactement de quoi je parle », elle nous parle de fiction. Et derrière, moi, ça me fait réfléchir à tellement de choses.
La défense là, de l'échec, de l'errance, de l'erreur, c'est aussi quelque chose qui est devenu un peu à la mode Donc on a beaucoup ces discours-là de l'importance des échecs, alors suivi aussi d'un parcours de résilience.
Bah oui,
voilà, il faut rebondir.
Il faut quand même y arriver au bout du compte.
Mais du coup, qu'est-ce qui différencie justement la fiction panier, les textes d'Ursula Le Guin, cette philosophie-là, vraiment, d'une vague tendance à défendre l'importance des échecs, qu'on entend beaucoup quand même, que ce soit sous la forme de la perte ou du deuil. Enfin voilà, c'est répandu à plein de formes de moments négatifs.
Merci de me poser cette question parce que j'y avais pas réfléchi et je crois que je vois dans la pointe, une fiction en pointe, je vois la pointe de la flèche et je vois comme un récit peut être très directionnel, donc avec un objectif et un objectif de victoire ou de défaite. Mais en tout cas, on sait où on va quand on écrit un texte de fiction avec le héros qui suit une trajectoire très linéaire et qui va vaincre et finir par soit gagner, soit perdre. Et dans ces textes, il n'y a pas cette linéarité-là. Donc, elle n'a pas de pointe, il n'y a pas de direction avec un objectif de, d'accord, tu essuies quelques échecs, mais après, au bout du compte, il faut que tu y arrives. Et là, puisqu'on parle du contexte du développement personnel et de ce que préconise, d'ailleurs, cette question du héros est très présente dans le développement personnel. Tu soit deviens la meilleure version de toi-même, soit ton propre héros. Enfin, c'est dingue aussi de véhiculer ce discours-là auquel j'adhère à mon corps défendant.
Oui.
On fait ce qu'on peut. Mais en effet, il y a cette idée que si tu te plantes, c'est pour mieux réussir après.
Tu vas en tirer une leçon.
Chez elle, il n'y a pas ça. Tu vas en tirer une leçon, tu vas comprendre, tu vas rebondir, tu vas mieux faire la prochaine fois. Chez Le Guin, il n'est jamais question de mieux faire la prochaine fois.
On tente
le coup, voilà. Et en effet, il y a quelque chose de l'ordre de l'hypothèse, de la tentative, et c'est en ça qu'elle s'inscrit, je trouve, assez bien dans le champ de la science-fiction. C'est de la science et de la fiction, c'est un mélange, on tente des trucs, ce sont des expériences et on peut se le permettre parce que justement on est dans le champ de la fiction.
On va écouter un extrait de La main gauche de la nuit d'Ursula Le Guin. Alors vous allez voir effectivement la question de comment tenir son auditoire en haleine se pose avec ce type d'extrait.
Le cycle sexuel est en moyenne de 26 à 28 jours. On tend à dire qu'il est de 26 jours pour le rapprocher du cycle lunaire. Pendant 21 ou 22 jours, le sujet est soma, en état de latence ou inactivité sexuelle. Vers le 18e jour, une modification hormonale est effectuée par les glandes pituitaires. Le 22e ou 23e jour, le sujet entre dans la période du kéma, l'équivalent du rut animal. Dans la première phase du kéma, sécha en caraïdien, il demeure complètement hermaphrodite. Différenciation et puissance sexuelle sont incompatibles avec l'isolement. Si le géténien dans la première phase du kéma se trouve seul ou avec des gens qui ne sont pas en kéma, il est inapte au coït. Pourtant, la pulsion sexuelle est en cette phase d'une force redoutable, assujettissant toute la personnalité, sacrifiant tout à ses impérieuses exigences. Lorsque le sujet rencontre un partenaire en kéma, les sécrétions hormonales en reçoivent un surcroît de stimulation, par le toucher surtout, et par l'odorat, jusqu'au moment où il se produit une prédominance des hormones mâles ou femelles chez l'un des partenaires. Les organes sexuels s'engorgent ou s'atrophient en conséquence. Les préliminaires de l'acte sexuel s'intensifient et le sujet déjà différencié déclenche un mécanisme qui fait prendre à son partenaire le rôle sexuel inverse. Sans exception, s'il peut arriver qu'il se forme des couples du même sexe, ces exceptions seraient négligeables. Les êtres normaux n'ont de prédisposition ni au rôle masculin ni au rôle féminin. Ils ne savent jamais lequel ils vont jouer et ne peuvent choisir.
Extrait de La main gauche de la nuit, lu par Anaïs Isbert, donc roman d'Ursula Le Guin, très grand roman. On en a beaucoup parlé durant notre échange, Aurore Vincenti, ce texte date de 1969. Et là, tout à coup, au milieu du texte, alors le récit est quand même une alternance de plein de mythes, d'extraits de journaux. Puis là, tout à coup, une théorie sur la sexualité. On se dit, mais c'est vrai, quand on l'écoute, pour un auditeur, une auditrice qui arrive, on se dit, donc ça n'a pas l'air super, ce roman, pas très captivant. Et pourtant, en fait, ça marche, ça nous intéresse. Comment elle y arrive ?
C'est son talent d'autrice. Elle a quand même une très belle plume, hein, d'une part. Mmh. Alors là, on entendait une traduction et elle est bonne. Mais il y a aussi toute sa plume en anglais. Elle a eu beaucoup de succès en langue anglaise. Mmh. En langue américaine, si je dois préciser.
Puis vous la lisez en langue originale. Donc,
pas toujours, mais la plupart du temps. Là, vous voyez, ses essais, je les ai lus et en anglais et en français.
Ça change quelque chose ou pas, alors ?
Oui, pour moi, oui. Mais parce que j'ai le goût de la langue anglaise. Mais elle est bien traduite. Elle est très bien traduite en français. Donc, faut pas se priver. et en effet, il y a ce regard. En fait, elle nous pousse à regarder cette sexualité-là en la comparant à la nôtre, à nos sexualités humaines. Et pour ce peuple-là, nous sommes constamment en rut. Nous sommes de gros obsédés sexuels, en fait, puisque nous n'avons pas de période dédiée à la sexualité. On n'a pas de kéma. Donc, notre sexualité humaine est une sexualité trop débridée. Vraiment, ils nous regardent avec beaucoup de mépris. Et c'est assez drôle d'avoir ce regard-là. Alors, voilà, elle teste quelque chose. Hein. C'est pas parfait, mais c'est intéressant. Moi, ça m'a plu de l'avoir imaginé une sexualité. Et c'est peut-être ça, une des choses que je trouve particulièrement forte. Aujourd'hui, à l'heure où on se pose des questions sur la violence dans le contexte de la sexualité, les violences sexuelles qui ont quand même colonisé l'ensemble de la sexualité, tout le monde est touché par ces questions, qu'on les ait subi les violences ou qu'on contribue à les reproduire, nos schémas hyper normatif qui fait qu'on fait des choses qu'on n'a pas forcément envie de faire, eh bien, la force de s'inventer une sexualité, c'est ça que je préconise, que j'essaie de chercher.
Que qu'est-ce vous espérez.
Qu'on peut, que j'espère. Qu'est-ce qu'on peut s'inventer et lire des autrices comme Ursula Le Guin, c'est une façon de rêver autrement, de s'éduquer à réfléchir autrement.
Donc une sexualité panier.
Une sexualité panier. Et donc, une sexualité panier, pour moi, ce serait une sexualité qui n'est ni dans l'actif, le passif, le top, le bottom, le pénétrant, le pénétré, mais qui est dans une écoute mutuelle et dans une réceptivité à mesure qu'on déploie de l'intention, du désir. Je peux être désirante si je suis à l'écoute aussi du désir de l'autre.
Est-ce que vous pensez, dernière question, Aurore Vincenti, avant qu'on passe à la fin de l'émission, que la fiction, on connaît le pouvoir de la fiction, on connaît le pouvoir de la pop culture, est suffisant en fait à redessiner des formes de désir. Est-ce que ça suffit, voilà, ouais.
Non, je ne pense pas. Je pense que ça aide. Je pense que ça aide et que c'est important d'avoir ces textes qui nous soutiennent. Voilà, vraiment pour moi, ce sont des textes très soutenants, porteurs et qui peuvent créer, oui, une forme de détonation dans la vie, de prise de conscience. Mais ensuite, je crois que nous sommes des êtres de chair et que nous avons besoin d'expérimenter et d'explorer avec nos corps, avec nos sensibilités. Et je dirais que si on devait repenser une éducation sexuelle aujourd'hui, elle serait bien en amont du sexuel, à un endroit sensible, à un endroit charnel, corporel, avant de tout sexualiser, avant de tout érotiser. Revenir à l'endroit du corps qui vit, qui sent.
Ce que vous faites dans votre livre, pour une érotique du sensible. Oh non! And it ain't like that. Oh no.
Oh no, I don't like it like that. I've been to the place and it ain't like that. I've been to the place across the track. That place called I like it like that. I've been with Tony, I've been with Lou. I'm here to tell you that place. Place and it ain't like that. Oh no.
Oh no, I don't like it like that.
Oh no.
Oh no, I don't.
No, 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 no.
Oh no, I don't like it like that.
I've been to the place and it ain't like that. Well, I was down there when you lost your shoe. That's a winsome cat was a yelling the blue. Things got so bad I couldn't stand no more. I made the scene and ran out.
And it ain't like that. Oh no. Oh no, I don't like it like that. Oh, no.
cette chanson, Aurore Vincenti, pour introduire cette séquence de fin d'émission, j'allais dire d'émotion.
Mais oui, aussi.
Oui, d'émotion. Après avoir évoqué l'œuvre qui a transformé votre vie, je rappelle qu'on a parlé d'Ursula Le Guin, place à un auteur que vous n'aimez pas ou qui vous résiste, que vous n'arrivez pas à lire ou que vous parvenez très bien à lire mais que vous n'aimez pas. Qui avez-vous choisi? Et je précise tout de suite, car vous faites partie des invités qui m'avaient précisé ça, je n'aime pas dire du mal des auteurs, on n'est pas là pour dire du mal, mais vraiment pour préciser quelqu'un dont vous ne parvenez pas à lire, et vraiment le livre vous tombe des mains, ou vraiment vous hérisse, vous le lisez, mais vraiment ça vous insupporte.
Alors, c'est pas un livre qui m'est tombé des mains, c'est pas un livre qui me hérisse non plus, j'ai pas de colère.
Il y a une autre catégorie encore.
Alors, il s'agit des Argonautes de Maggie Nelson.
Et les bras m'en tombent.
Et en tant que féministe, queer, je me sentais le devoir.
Peut-être que vous pouvez la présenter, Maggie Nelson,
une chercheuse américaine qui écrit ce texte. Alors, qui est un texte assez spécifique, puisque c'est un texte intime, où elle parle et de la transition de son compagne. J'ai fait Ursula Le Guin.
Ouais.
Le Guin. De son compagnon, ça. Mais ouais. C'est ça. Et de sa grossesse. Donc, elle arrive à un endroit de sa vie qui est un endroit de chamboulement corporel aussi, physique. Et donc, pour moi, c'était du pain béni. Enfin, je me disais, je vais forcément aimer. Ça parle de ces questions-là. C'est très ancré dans le corps. Et je l'ai lu, j'ai commencé à le lire, une première journée, une deuxième, une troisième, bon évidemment pas en continu. Et puis j'en parlais tous les soirs à ma compagne et j'étais assez désespérée j'étais triste. Et elle me dit, mais au bout d'un moment, elle me dit, je crois que ce texte te déprime. Et je lui dis, je crois aussi. Et elle me dit, il faut que tu arrêtes alors. Et c'est vrai que j'avais très envie de l'aimer. Et ça m'a rendu infiniment triste. Et je ne saurais même pas vous dire pourquoi. Je crois que j'ai juste arrêté la lecture. J'espère la reprendre un jour, peut-être au soleil.
Vous pensez que ça va
être la plus picarde
Il y a des conditions de lecture. Mais ça, c'est une très bonne question. Est-ce qu'on aime des livres aussi pour les conditions dans lesquelles on les lit, pour l'état dans lequel on est est-ce qu'effectivement, il y a quand même... lire L'étranger de Camus si vous êtes en crise d'angoisse ou La métamorphose de Kafka, je ne les conseille pas.
C'est vrai.
Néanmoins, Maggie Nelson, pour l'avoir lu, Les Argonautes, alors moi, je l'ai lu, il faisait beau, mais c'est un texte vraiment une fiction panier, comme on pourrait dire. Là, il y a de tout. Il y a des bouts de journaux, il y a des images sur très évocatrices pour elle. Tout à coup, elle va en parler pendant plusieurs pages. Il y a des moments un peu théoriques aussi, où elle va, je dirais presque délirer, mais dans le bon sens du terme, c'est vraiment où elle va partir dans des pages d'écriture sur une théorie. Enfin, pour moi, c'est de la fiction panier, mais il y a vraiment, c'est vrai, plus vraiment de récit là. On est vraiment plutôt dans un journal.
En effet, c'est un texte plutôt théorique à la première personne, donc il n'y a pas de fiction à proprement parler. Mais je ne saurais pas vous dire, il y a des choses qui nous résistent, et peut-être que, ça je suis prête à le croire, qu'il y a des éléments de ce texte qui m'ont touchée intimement, personnellement, et que c'était pas le bon moment. Que peut-être qu'il faudrait que je le reprenne maintenant ou plus tard, que je comprendrais certaines choses.
Une sorte de lien inconscient, insupportable.
C'est tout à fait possible.
Chez la psychologie,
un peu de psychologie de comptoir. Je suis prête à le croire.
De plateau radio. Donc ce texte, je le précise, il est paru en 2015. Les Argonautes de Maggie Nelson, écoutez, vous nous direz.
Il a un succès fou. Il a un succès fou. Il y a plein de gens qui l'adorent.
Bon,
donc ne m'écoutez pas.
Merci beaucoup, Aurore Vincenti. De vous, on peut lire. Lisez-le pour le coup. Pour une érotique du sensible aux éditions de La Découverte. Pour lire La théorie de la fiction panier d'Ursula Le Guin, vous pouvez la trouver aux éditions de L'Éclat dans le recueil Danser au bord du monde. Mots, femmes, territoires, c'est traduit de l'anglais par Hélène Colomb. Je précise que La main gauche de la nuit, c'est disponible aux éditions Le Livre de Poche, tout comme Les quatre vents du désir. Aussi disponible, tout juste disponible aux éditions Le Livre de Poche. Et ce soir, Aurore Vincenti, on peut vous retrouver en librairie. Dites-nous où.
Oui, si vous avez envie de m'entendre parler de sexualité, je serai à l'Ours et la Vieillerie à Paris, dans le 5e arrondissement, mais je vais aussi aller.
À quelle heure ?
19h30, merci.
Et ailleurs en France.
Et ailleurs en France, voilà.
Un grand merci à Manon Delasselle et Axel Dubois, à Nicolas Berger à la réalisation, à Anaïs Isbert à la lecture des textes, à Anthony Thomasson et Julien Moulet à la prise de son. Les éditions du Souffle de la Pensée sont disponibles sur le site et sur l'application Radio France.